RMC, entre les poteaux, Christophe Cessieux.
Salut à tous, c'est l'heure de la rentrée pour Fabien Galthié, le sélectionneur de l'équipe de France, qui a quelques jours de l'annonce de la composition de son équipe pour affronter l'Irlande. Ce sera dans quelques jours maintenant. Eh bien, a effectué une pré-rentrée en deux étapes. La première, c'était la semaine dernière avec cette longue interview accordée à nos confrères de l'équipe. Et la deuxième, aujourd'hui à Édimbourg, où étaient réunis les capitaines et les sélectionneurs des équipes des six nations. Vous entendrez dans quelques instants le sélectionneur s'exprimer notamment sur ses choix. Et oui, parce que ses choix dans la liste des 42 ont beaucoup fait jaser ces derniers jours. On rappelle que la plupart de ces cadres, en tous les cas, trois d'entre eux, Aldrit, Ficou et Penaud, ont été évincés de la liste. Alors, pourquoi ce choix? Eh bien, vous entendrez tout à l'heure le sélectionneur qui s'est exprimé sur plein d'autres sujets qu'on évoquera avec Denis Charvet. Bonjour Denis.
Salut Christophe.
Et avec Julien Landry. Bonjour Julien.
Salut Christophe, salut Denis, salut à tous.
Pas de Wilfried. Enfin, il passera peut-être une tête tout à l'heure, ouais. Puisqu'il est lui aussi à Édimbourg et dans la trace de Fabien Galthié, évidemment, pour écouter la bonne parole, la parole sacrée du sélectionneur qu'on entendra dans quelques instants. Voilà. Est-ce que tu as peur de te faire enfumer encore une fois, Julien, ou ça va de ce côté-là?
Il a déjà commencé.
Commencé à t'enfumer.
Alors, pas nous enfumer, mais.
Tu vois le mal partout, Julien.
Mais non, il a déjà commencé. Pas nous enfumer, mais déjà faire un peu de communication. Il a déjà ouvert quelques parapluies.
Peut-être qu'il a changé.
Oui,
évoluer,
bien sûr. On y croit forcément. Avant d'évoquer le cas Galthié, on va d'abord revenir sur l'actualité du week-end. Évidemment, c'est la tradition entre les poteaux. La 15e journée du top 14 qui nous a offert des matchs au couteau et quelques surprises de table.
Oh, il va aller tout seul, Mathieu Jalibert, par-dessus pour lui-même.
Oh, quelle classe.
Et là, voilà, la magie Jalibert en action sur la pelouse de Chabot. Oh, allez, c'est parisien. Le compte de 60 mètres. Oh, que c'est beau! Que c'est bien joué de la part des Parisiens! Magnifique, quel match!
Gâté, là, hein.
Le lancer est raté! Le contre-parisien! Et le ballon expédié dans les tribunes de Chabon! La victoire de Paris! 33-28! Oh, ils sautent de joie, les Parisiens!
L'essai pour Castres avec encore une fois Wojtyla Karawalewu. Rush immense du centre Castré. Alors qu'on a passé les 80 minutes de jeu ici à Jean Doger. La passe pour Joris Second, la sauter pour aller chercher l'extérieur avec Corabé qui lâche le ballon et les Castrés qui vont s'imposer ici à Jean Doger.
Et l'essai de Tanié Latupou pour le Racing 92, la réponse à nouveau immédiate. Et l'essai du Racing, peut-être l'essai de la victoire pour les Franciliens à la 75e minute de jeu. Daniela Tupou, le doublé pour le pilier international australien après son doublé face à Montauban. Et celui-là, il compte beaucoup, beaucoup plus parce qu'il peut offrir peut-être la victoire au Racing 92.
C'est du bonus, Christophe, de nouveau pour les Catalans. Marqué à l'instant avec l'entrée du banc. Hein, la rentrée notamment de Pozzolo Tuilagi et de Pietro Ceccarelli. C'est lui qui vient marquer. Grosse percée de Dougie Valou. Et c'est voilà, dans ce match pour le maintien. Perpignan réussit sa mission. Bonus offensif.
La passe au pied de Ramon. C'est le cinquième essai du Stade Toulousain. Que du spectacle ici, Ernest Vallon. Et un dernier essai, il n'y en avait pas assez. D'Anthony Gelonge transformé par Ramon. C'est 9e pour le Stade Toulousain contre 3 pour les Palois.
Et donc on se quitte là-dessus. Victoire écrasante du Stade Toulousain, 59-22 face à Pau.
Voilà une 15e journée passionnante, marquée par l'enthousiasme de nos commentateurs, mais aussi par deux victoires à l'extérieur et pas des moindres. Celle du Stade français à Bordeaux et sur celle de Castres qui a mis fin à l'invincibilité de l'aviron bayonnais à Jean Doger qui courait depuis juin 2024. Denis, qu'est-ce que tu retiens en priorité de cette journée? On va peut-être commencer par d'abord les pires poteaux du week-end. Qu'est-ce que
les pires poteaux, c'est Pau, parce que le championnat est déjà fini. On a vu
Denis, ils ont joué le jeu, Denis.
Mais tu viens faire un résultat, tu en prends 59.
Tu peux pas aller dire que c'est le pire poteau pour le coup.
Non, moi je dis justement, ils avaient mis les moyens, ils sont venus avec la grosse équipe et derrière ils prennent une déculottée. Plus, même au niveau des jeux,
moi j'ai vu le match. Tu penses qu'ils pouvaient faire mieux face à la.
Le vrai problème du top 14, c'est qu'ils pouvaient pas faire mieux.
Ah oui, mais ça...
c'est le vrai problème. Donc, c'est vrai, je peux dire oui, ça, je tape sur les Palois, mais en même temps, je peux taper sur le top 14 parce que il y a un fossé.
Le Palois est rassuré quand tu dis ça.
Et d'ailleurs, Vincent Moscato m'a appelé après le match, il était en province, il me dit ça y est, le top 14, c'est fini. Il n'y a plus de top 14. Et j'ai dit oui, t'as raison. J'ai dit, je pense que Toulouse, je sais pas oui, qui enfin, peut battre Toulouse.
L'avantage du top 14, c'est que tout est remis en jeu dans les phases finales.
Mais
quand les
phases finales, je vois pas qui peut battre Toulouse.
Bah oui, non, mais ça fait des années qu'on se dit non, ça.
On le sait.
Sauf que Bordeaux, l'année dernière, a failli faire la.
Oui, mais on attendait tous, il faut pas se le cacher, on attendait tous une résistance paloise. On s'est dit, pourquoi pas avec les équipes. Mais devant, c'est devant plus que derrière, je trouve, au moins.
Derrière, ils ont une ligne de trois quarts de folie.
L'équipe de France, Denis.
Oui, mais non, mais je trouvais Brobary très bon. Il y a eu, tu vois, je sais pas, mais devant, il y a eu un monde, quoi. Donc, voilà, je dis le pire poteau parce que j'étais déçu. Voilà, moi, plutôt déçu, c'est tout.
Franchement, tu t'attendais à ce que Brobary jusqu'à la fin de la saison.
Mais d'ailleurs, ils font une entame, j'étais content, ils font une belle entame. Je me suis dit, ah, putain, il va y avoir un match.
Ouais, moi aussi.
Il va y avoir un match, et puis derrière, ça se dégonfle en 5-10 minutes, quoi. Donc, tu te dis,
on le sait, Toulouse n'est jamais aussi redoutable messieurs. Que quand ils se sont.
D'accord, mais 9 essais, 9 essais.
Piqué en championnat.
Je sais pas si vous voyez ce que c'est, 9 essais contre le second du championnat.
Rappelle-toi la finale. 2024, ça avait été une boucherie, mon Denis.
Non, mais même, moi, ce qui m'a surpris, c'est que dès qu'ils envoyaient le ballon, 2-3 temps de mouvement, les Palois étaient dépassés complètement. C'est un peu ça qui m'a déçu. Je me dis, de voir une défense aussi laxiste, aussi amorphe, je me dis quand même. Non, ils étaient venus faire match, et puis il y a eu une catastrophe, quoi. Voilà. Non, mais
c'est
sérieux.
C'est plus du dépit.
Mais non, c'est une très belle équipe, Castres, Pau, c'est une très belle équipe, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais là, sur ce week-end-là, moi, j'attendais mieux et je suis déçu.
Voilà. Ok. Julien, ton pire poteau du week-end, ce ne sera pas la section paloise, forcément.
Non, parce que, je comprends ce que dit Denis. Ils ont essayé, voilà. Après, Piccheroni l'a dit, il a dit rien ne change.
Il y a deux mondes.
Ouais. Ils ont joué contre 7 des 8 avant qui vont composer le CAS de France contre l'Irlande. Et tu le sais mieux que nous, Denis, tous les succès, les grands succès du Stade Toulousain ont été bâtis sur une énorme conquête. Et là, ils ont probablement la meilleure conquête. Ouais. De notre championnat, avec en plus derrière des phénomènes, ce qui fait voilà, ils sont capables de mettre 50 pions à toutes les équipes. Alors oui, c'est vrai, pour envoyer la grosse équipe, ils ont pris 50 pions. Des équipes ont fait tourner, ils en ont pris 50. Moi, je préfère le panache des Palois dans ce coup-là. Non, pour rejoindre le coup de Denis, le pire poteau, c'est la fin de suspense dans notre championnat, quoi. On sait que Toulouse va terminer premier. On sait que Montauban va terminer dernier. Donc, il y a déjà plus de suspense pour ces places-là. Donc, on va se raccrocher au suspense pour la deuxième place. Et encore, je ne sais même pas, parce qu'avec la défaite de Bordeaux, est-ce que les Palois ont pas un boulevard pour terminer deuxième aujourd'hui, Denis ? Il va y avoir un suspense.
De Toulon.
Oui, peut-être. Mais voilà, tu sens aujourd'hui que cette journée-là a décanté beaucoup de choses en bas, en haut.
Et voilà, parce que c'était les affrontements directs.
Exactement.
Le grand perdant, c'est Bordeaux, c'est sûr.
Au classement.
Bordeaux, peut-être que Pau aujourd'hui ils ont le boulevard pour aller terminer deuxième et s'assurer une demi-finale. Voilà, c'est fin de suspense de notre championnat.
De Bordeaux, puisque tu vas me demander les meilleurs aujourd'hui, poteaux, non ?
Exactement.
Moi, je citerai une équipe, je citerai le Stade Français, même si Castres a gagné à Bayonne, mais dans des conditions dantesques qui ont nivelé les valeurs, il me semble. Mais là, je trouve que le Stade Français à une défense. Moi, je rends hommage à la défense du Stade Français. C'est impressionnant. Et on pourrait croire que Bordeaux a loupé son match, mais ils ne l'ont pas loupé. Ils ont été pris par une défense terrible du Stade Français. Ils n'ont pas trouvé de solution. À part Jalibert, à un moment donné, qui en a trouvé une ou deux, ils en ont trouvé, mais ils ont été vraiment contrariés par ce Stade Français qui me fait penser au Stade Français il y a 2 ans, quand ils sont allés en demi-finale.
Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez lu la déclaration de Paul Gustard, le patron du Stade Français, qui déplorait le fait qu'il y ait un seul Parisien, finalement, dans la liste des 42 de l'équipe de France.
Oui.
Alors que cette équipe, effectivement, fait le boulot depuis le début de...
Non, mais c'est une belle équipe de Bordeaux, donc c'est un exploit quand même, un exploit du Stade Français d'être allé gagner là-bas. Et on voit cette année qu'ils voyagent très très bien, ils ont perdu dans plusieurs endroits, il me semble, Julien.
Oui, je comprends Gustard, mais Marchand, Ward, Vili, Dakouvaka, Celso, Nicotera,
Billy.
Ils sont pas beaucoup, il n'y a pas beaucoup d'internationaux français. Alors, il y a Barré qu'ils auraient pu appeler, évidemment. Carbonel, pourquoi pas.
Mais il dit que c'est le meilleur 10 actuellement du top 14.
Oui, c'est vrai.
Il l'aurait mérité.
Oui, c'est vrai. C'est vrai.
C'est vrai.
Voilà, donc le Stade Français.
Non, mais je pense qu'il pensait à Gabriel, peut-être.
Oui, peut-être Gabriel, qui avait été appelé à des moments, je suis d'accord. Mais aujourd'hui.
Il fait un très bon début de saison.
C'est vrai.
Julien, ton meilleur poteau du week-end ?
Ça sera Pesely, Yato et Lussab dans son ensemble. Bah, Yato parce que il a été recruté en début de saison par les Catalans pour gagner de la densité. Il a été blessé en début de saison. Ils ont prévu son retour tranquillement là pendant la Coupe d'Europe. Et là, on l'a trouvé énorme contre ce week-end contre Montauban. Je pense qu'il a adoré les conditions climatiques de la pluie. Saluer le travail de Lussab depuis le retour de Laurent Labitte, qui a quand même changé clairement de visage et qui, attention à ce qu'il ne fasse pas pour le coup une remontée. En tout cas, Laurent Labitte espère être invaincu jusqu'à la fin de la saison à domicile. Et du coup, ça nous offrira peut-être du suspense pour la 12e place. Et on a beaucoup critiqué les supporters catalans depuis le début de la saison. Voilà, je tenais à les saluer d'avoir répondu présent dans des conditions apocalyptiques, sous la pluie. Ils étaient là 1h30 avant le coup d'envoi pour accueillir les joueurs sous la pluie. Ils sont restés sous la pluie tout le match. Je vous l'ai dit, pendant la rencontre, on était tous gelés, les joueurs couraient. Et ben, les supporters catalans, ils sont excessifs parfois dans la passion, mais ils aiment ce club plus que tout et ils répondent toujours présent. Et ils ont répondu présent encore une fois samedi soir. Dans des situations compliquées pour ce match évidemment qui comptait. Voilà, saluons aussi parfois les supporters catalans qui ont donné une belle image de samedi soir.
Saluons le retour de Pozzolo.
Pozzolo Tulagi.
Aussi de Pozzolo Tulagi, effectivement.
Ouais. En revanche, quand tu dis qu'il y aurait peut-être encore du suspense pour la 12e place, il y a quand même.
Oui, il y a loin, mais
28 points pour Lyon, 14 pour Perpignan, ils ont la moitié des points seulement.
Oui, après Lyon se déplacera à Emegiral, donc dans l'esprit des Catalans, ils peuvent revenir, même si Lyon va recevoir Montauban. Mais voilà, ils se laissent l'espoir de rêver, même si Lyon a fait un très bon match au Racing là, samedi, ils auraient pu gagner. Oui, évidemment, ça paraît quasiment impossible aujourd'hui, mais les Catalans qui sont quasiment n'ont pas assuré de terminer 13e, mais voilà, ils se fixent cet objectif-là de la fin de la saison. D'essayer de regarder en haut si jamais il reste invaincu à domicile.
Et je pense que si Wilfried avait été là, il aurait salué la victoire du Castres Olympique, hein, qui est vraiment sur une belle série après sa qualification en Champions Cup. Ouais. Aller gagner à Bayonne, quand même, fallait le faire. Hein.
Non, c'est bien. Ouais. Ils se replacent, là. Ils sont combien, 5e, non ?
Ils sont un peu plus loin. Ils sont 8e.
Ah oui, là, oui, à quelques points. Ouais.
Donc, mais bon, à 3 points seulement pour l'instant des qualifs, à 3 points seulement de.
Bah, ils vont être là jusqu'au bout, Castres, ouais, pour compter sur eux.
Ils lâchent rien. Ouais, ils lâchent rien et Bayonne l'a pris à ses dépens. On va suivre quand même l'actualité à Bayonne parce que ça pourrait secouer dans les branchages. Avant d'entrer dans le tournoi, il reste donc une dernière journée. Ce sera le week-end prochain, même si les clubs seront privés d'une partie de leurs internationaux qui sont donc en stage à Marcoussis. Marcoussis où les Bleus sont arrivés dimanche soir. Ils ont à peine pu croiser leur taulier, Fabien Galthié, parti avec son capitaine sous le bras à Édimbourg pour le traditionnel Media Day d'avant-tournoi avec tous les sélectionneurs et capitaines des Six Nations. Fabien Galthié, dont il est question aujourd'hui entre les poteaux.
Nous, on est tellement heureux de jouer. Il est de jouer, de vivre l'instant présent avec plaisir et de s'aimer très fort.
Le coup de pied assis, peut-être pour Damien Penaud. Allez, Damien, le rebond.
Ouais,
et c'est
ouais,
Damien Penaud. Ouais, Damien Penaud qui bat le record de Serge Blanco.
On ne porte pas le poids, on ne porte pas le sac à dos d'éléments qui pourraient nous alourdir.
Penaud pour Ficou, un contre Aliba. Et c'est Gaël Ficou.
Nous sommes légers, nous sommes très légers. Nous sommes très heureux de jouer à ce jeu.
Penaud, l'essai.
Et c'est le Penaud, le doublé.
Le deuxième essai des Bleus.
La lumière est tellement forte qu'il faut être en capacité de traverser à la fois la lumière qui fait de la chaleur chaude et comme le froid, comme le chaos, donc rien ne me surprend.
Tu l'as compris?
Ah ben non, mais c'est Julien qui lui, le traducteur.
Alors, Julien, le traducteur dit des enfumages. Alors vas-y, Julien, on t'écoute.
La lumière, j'étais là, je me rappelle cette conférence de presse, je ne sais plus, c'était avant un match de Coupe du
là,
Monde.
Là, c'était lunaire quand même, non?
Ah, c'était incroyable. Ah, mais des fois, quand il
part
dans
des... qui peut nous sortir des...
Quand il part dans des trucs comme ça, des fois... Moi, je me rappelle à Montpellier, on en a eu tellement, mais c'est vrai que des fois, il est...
Oui, oui, parce qu'on se souvient que de l'équipe de France, mais effectivement, lorsqu'il était en club, il était déjà coutumier du fait.
Ah oui, des fois, il est dans son monde, mais... Et ça fait aussi son charme. Voilà, c'est aussi son charme.
Exactement. Alors, on va décrypter évidemment tout ce qui a été dit par le sélectionneur parce que je vous le disais il y a quelques minutes à l'approche du tournoi. C'est vrai qu'il sait se faire désirer auprès des médias et qu'il a donc effectué sa rentrée médiatique en deux temps. Il y a eu d'abord l'interview donnée à nos confrères de l'équipe juste après la liste des 42 parce que la liste des 42, il la communique par un simple communiqué. Il ne la commande pas avant finalement de. de se retrouver à Marcoussis. Et puis, donc aujourd'hui, il était à Édimbourg et il a pu donc s'exprimer et à nouveau expliquer ses choix. Alors, je sais, Julien, que tu n'apprécies pas toujours les prises de parole du sélectionneur. Je suis d'ailleurs souvent d'accord avec toi. Qu'est-ce que tu as pensé de cette interview ? Est-ce que tu as trouvé quand même des élans de sincérité à l'intérieur de cette interview ? Ou est-ce qu'il y a encore de l'enfumage, comme tu aimes à le rappeler régulièrement lorsqu'il s'agit du sélectionneur ?
Déjà, j'ai pas voulu le mettre dans les pires poteaux. Non, je regrette cette communication en fait. Je trouve ça dommage de choisir le média
pour qui il communique
avant le tournoi. On se rappelle qu'après la tournée de novembre, il avait accordé une interview à Midi Olympique. Qu'avant la tournée de novembre, il avait accordé une interview à Sud-Ouest. Je trouve que l'équipe de France, ça parle à tout le monde. Et qu'il accorde une interview à certains médias, pourquoi pas, pour mettre plus en longueur. Mais voilà, c'est une liste de l'équipe de France pour le tournoi destination qui va rassembler entre 5 et 10 millions de Français avant chaque match. Je pense qu'il aurait pu s'exprimer devant tout le monde. Et après, pourquoi pas faire une interview pour l'équipe, pour Midi Olympique. Mais que tout le monde ait la parole de Fabien Galthié le jour de cette liste, je trouve que ça aurait été, à mon sens, plus intéressant. Mais bon, après, voilà, c'est le choix du sélectionneur qui fait comme ça...
C'est ce qui se faisait avant d'ailleurs. Je dis.
Bah oui, quand
oui exactement. Non,
quand
non, mais même Fabien France, l'a fait. Même Fabien l'a fait aussi à un moment.
Oui,
et c'est vrai que là maintenant,
c'est un choix. C'est un choix.
Oui, mais je le regrette, tu vois, Denis. C'est
oui,
dommage.
Mais je le comprends difficilement parce qu'en fait, ça lui amène quoi
C'est ça.
Et là où je suis,
non, après,
là où je te rejoins, c'est qu'il y a quand même des de public, les supporters.
Exactement. Non, mais c'est pour ça, tu vois,
ceux qui l'équipe de France, ceux qui sont amateurs de rugby, qui ont toujours envie d'en savoir un peu plus très vite. Et puis, je sais pas, moi, c'est. C'est la méthode, c'est vrai que c'est sa méthode, ouais, c'est curieux. Ouais.
Après qu'il a envie de s'exprimer en longueur, parce qu'ils disent une heure et demie dans l'équipe, alors pourquoi pas pour aborder. Après, sur l'interview en lui-même, je trouve que voilà, il a apporté des réponses, il n'a pas.
Moi j'ai beaucoup aimé
certains
personnellement.
Sujets. Je n'irai pas jusque-là, Denis. Ouais, il a quand même cette capacité à toujours ramener les choses à lui. Et ça, il faisait à Montpellier, toujours son expérience. Et moi, quand j'étais joueur, et ça, c'est ça pour moi, ça devient fatigant. Et le nombre de questions qu'il a fallu lui poser pour avoir une réponse sur Mathieu Jalibert.
Oui, mais alors justement.
Mais Denis, moi, je suis Mathieu Jalibert, je l'interview. Je me dis, heureusement qu'il est blessé à Ntamak parce que je ne sais pas si j'aurais eu ma chance. Il a quand même par plein de chemins. Et puis, sans oublier cette référence à la Tour Eiffel, quand Antoine Dupont est évoqué, alors j'ai failli tomber de ma chaise en lisant le journal. Je me dis, non, quand même, je ne peux pas abuser. Non, allez, à 70%, l'interview est bonne. Et après, ben, voilà, il y a du Fabien sur le reste qui, parfois, est un peu énervant.
Je ne suis pas d'accord avec toi sur Mathieu. Je le trouve sincère. Et c'est sous forme de mea culpa, je pense que c'est très, très sincère.
Oui,
de sa
à la
part.
Troisième réponse, Denis. La première question, est-ce que Mathieu Jalibert est une évidence on a gagné avec Thomas Ramos, on a gagné avec Romain Tamak,
oui,
c'est pas
ça,
la question
lui,
qu'on t'a posée.
Ça, il tape en touche, oui, mais ça, on le connaît.
Après, mais il dit, je me suis peut-être trompé avec des joueurs, je leur ai peut-être pas donné assez d'amour, il faudra que je fasse
oui,
mieux.
Oui, mais au moins, c'est la première fois qu'il le dit, ça.
Eh bien oui, alors à la première réponse, va dans ce sens-là. Oui, je me suis peut-être mal comporté avec Mathieu.
Il a toute notre confiance. De s'ouvrir enfin, quand même.
Oui, mais il a mis du temps à s'ouvrir. Je pense qu'il aurait dû le faire dans l'autre sens.
Oui, mais alors, il n'était pas obligé de cette réponse. Mais il l'a faite parce que je pense qu'il est en train de changer. Je l'espère d'ailleurs. J'espère qu'il va changer de fusil d'épaule et de s'ouvrir davantage aux joueurs. C'est vrai que Mathieu, pour en avoir parlé avec lui, il a besoin de cette confiance. Il a besoin de lui. Et vraiment, comme tous les joueurs d'ailleurs qui passent en équipe de France, tu as besoin de la confiance de ton sélectionneur. Mais Fabien, Mathieu, il a besoin de ça. Donc je pense que, et j'espère que maintenant, Fabien. Un grand professionnel qu'il est, il va lui apporter ce supplément
même. C'est quand même rare que Fabien Galthié fasse son mea culpa.
Très rare.
Là, dans l'interview, il le fait quand même.
Oui, bien sûr. C'est
oui,
ça.
Non, mais bien sûr.
Je vais essayer de faire mieux. J'ai une obligation.
C'est la première fois que j'entends
de faire bien et de faire mieux et notamment peut-être d'expliquer des choses aux joueurs.
Je trouve super.
Mais ça, c'est ce que je dis. Je trouve ça bien. J'aurais aimé qu'il apporte cette réponse à la première question qu'on lui pose sur Jalibert plutôt qu'essayer encore une fois de noyer le poisson, de taper à côté et puis finalement d'y arriver. Je pense qu'avant le tour, tu l'as dit, Denis, Mathieu, il a besoin de signaux en disant, mais on a confiance en toi. Et la première réponse qu'il aurait dû dire, effectivement, Mathieu, il est sûrement le meilleur 10 depuis le début de la saison. On va lui donner notre chance.
Oui.
On s'est peut-être mal comporté avec lui. Et après dire, mais voilà, n'oublions pas qu'on a gagné avec Romain Tamak, qu'on a gagné avec Thomas Ramos, qu'aujourd'hui, on a deux ouvreurs de très haut niveau. Mais que là, effectivement, c'est Mathieu qui aura sa chance.
Après,
il a fait à l'envers.
Après, il y a monde, il voilà. y a ce que tu dis dans les médias et ce que tu dis à ton groupe et à tes joueurs.
Alors, qu'est-ce qu'il a dit à Jalibert, justement ?
Je n'en sais rien, mais j'espère qu'il va s'ouvrir autant qu'il s'est ouvert dans les médias. Parce qu'après, c'est comment il va s'adresser à Mathieu, comment est-ce qu'il va s'ouvrir à lui, il va dire « maintenant, je suis avec toi ». Voilà, j'en sais rien. C'est une vraie question.
Mais Denis, là, tu vois, Fabien, il connaît suffisamment la communication pour savoir que quand il s'adresse à l'équipe, il s'adresse aussi aux Français. Tu vois, et il fait aussi passer des messages. Donc si tu dis le discours qui tient à nous, c'est pas le même qu'aux joueurs, eh ben c'est dommage. Parce que justement,
j'espère pas. C'est une interrogation que je.
D'accord. J'espère que voilà, il donne.
Parce que par le passé, ça n'a pas été le cas. Voilà, c'est pour ça que je le dis. Donc on espère maintenant que cette attitude va changer chez lui.
Il fait également référence au passé pour expliquer les raisons de son choix finalement et d'avoir privilégié la piste Ntamack ou Ramos. Il dit lorsque j'étais joueur de l'équipe de France, il y avait un turnover incessant au poste de numéro 10 et ça a souvent causé presque les défaites de l'équipe de France. Donc là, il explique.
On a souvent voulu la peau du 10 quand Fabien était joueur, effectivement, il en a eu beaucoup. Mais il n'y avait jamais personne qui s'était imposé à cette époque-là. Là, pour le coup, on a Ntamack qui a été très bon, là on a Jalibert qui est très bon. Mais oui, c'est vrai qu'on a toujours fait la chasse au 10 et qu'on n'a jamais laissé un joueur s'installer. Ce que fait Fabien Galthié avec Romain Ntamack. Et aujourd'hui, voilà, Mathieu Jalibert a remis...
De l'histoire du rugby, de l'histoire du rugby, je pense pas qu'on ait eu deux demi-ouvertures aussi forts pendant pendant la même génération. Je crois que c'est unique.
Oui, mais il y avait en revanche des 10 qui étaient à peu près du même niveau et c'est vrai qu'on passait de l'un à l'autre de manière incessante. Alors justement, il s'est exprimé ce matin concernant Mathieu Jalibert au micro de Wilfried. On va écouter les nouvelles explications du sélectionneur concernant son numéro 10, donc le Bordelais Mathieu Jalibert.
Depuis maintenant 6 ans à peu près, ça fait la 7e année, je fonctionne avec 3 ouvreurs, on va dire, 3 ouvreurs identifiés. Et il fait partie de ces 3 ouvreurs avec Thomas Ramos et Romain Ntamack. Romain Ntamack est blessé, Mathieu Jalibert est en forme et Thomas Ramos est là. C'est vrai que Romain Ntamack et Antoine Dupont, ils s'entraînent tous les jours ensemble. C'est pas le cas de Mathieu Jalibert et d'Antoine Dupont, on le sait. Mais je pense que pour l'équipe de France, et en tout cas le vécu que l'on a, puisqu'ils ont déjà joué de nombreuses fois ensemble, je pense que vous le savez, c'est intéressant de les retrouver associés potentiellement, tout comme Thomas Ramos qui peut aussi jouer numéro 10. N'oublions pas que le tournoi destination l'an dernier, il a joué numéro 10 dans cette compétition.
Ouais, donc là aussi, c'est pas assuré pour Mathieu Jalibert, cette place de numéro 10, Denis.
Mais c'est... tu vois, Denis, ça m'énerve.
Là, j'aime moins ça, ce discours, arrête de parler de Ramos. Ramos, il arrive, buteur. Parle-moi de Mathieu, et puis on n'en parle plus. Puis après, on verra s'il est pas bon. Mathieu, tu le changes, tu remets Ramos.
Là, tu lui mets déjà la pression, indirectement, tu lui mets la pression.
Arrête
Denis.
De dire, il y a Ramos qui est là. Arrête avec ça.
J'en reviens, Denis, tu vois ce que j'ai dit sur l'interview. Je trouve qu'encore une fois, là, la communication de Fabien sur le sujet, elle est pas bonne.
Non, elle est maladroite, mais je pense.
Je trouve que c'est maladroit. Parce qu'encore une fois, on te pose une question sur Jalibert. Eh ben, dit que oui, il est brillant et qu'on va lui faire confiance, qu'il a joué avec Dupont et que voilà.
Non, mais en plus, tout le monde
lui remet pas Ramos dans les bottes.
Mais en plus, tout le monde
déjà
que Ramos,
il a été énorme samedi soir en 10 avec Toulouse et que je suis pas sûr que Jalibert, il est apprécié. Lui rajoute pas une pression. Non, parce que là, Jalibert, qu'est-ce qui va lui arriver, Denis? Si, admettons, il rate le match contre l'Irlande. Voilà. On va dire, Jalibert, c'est pas bon, il faut remettre Ramos en 10. Tu rajoutes de la pression à Jalibert. Non, je trouve qu'il n'est pas bon dans la com.
Surtout qu'il n'a pas besoin de parler de Ramos. Tout le monde le sait qu'il peut jouer en 10. Tout le monde le sait qu'il est très bon en 10 ou en 15. Et voilà, que c'est
tout le monde sait qu'il préfère jouer en 15
ou
en 10.
Que c'est un élément incontournable. Bon, là, donc, parle-moi de Mathieu. Tu dis, maintenant, je vais m'occuper de lui. Je me mets dans les meilleures conditions. Encore une fois, mais ça te prouve quand même...
qu'il n'est toujours pas convaincu.
Oui, j'ai envie de dire. Parce que c'est ce qu'on ressent. Malheureusement, et c'est spontané, il triche pas non plus, là, Fabien, en nous parlant comme ça, donc c'est sa communication, il faut l'accepter, mais il triche pas, donc il nous dit, il met ses retenues par rapport à Mathieu, quand même.
Toujours.
Donc ça veut dire qu'il veut le faire jouer par défaut, quelque part. Enfin,
c'est ce qu'on entend. Moi, c'est ce que j'ai lu quand j'ai lu l'interview de Fabien Galthié dans l'équipe.
Pas dans
c'est
l'équipe, non, moins.
Mais si, moi, dans l'équipe, j'ai le même ressenti que
non, parce que dans l'équipe, qui parle de Ramos, c'est normal, au poste d'ouvreur, il élargit un petit peu le débat. Mais là t'es à 4 jours, 7, 10 jours du match, parle-moi du joueur. Arrête de me parler des autres.
On va écouter à nouveau Fabien Galthié. On va aussi revenir sur ce qu'il a dit à nos confrères de l'équipe concernant les absents, parce qu'on a beaucoup parlé des absents lorsqu'il a dévoilé sa liste des 42. Parmi ces absents, 3 joueurs de marque, 3 cadres, 3 joueurs de l'équipe première qui étaient vraiment des titulaires depuis que Galthié est arrivé au poste de sélectionneur. Le numéro 8, Aldrit. Gaël Ficou et ses 98 sélections et Damien Penaud, recordman d'essai en équipe de France, qui ont donc été tous les trois évincés de cette liste des 42. Des absences surprenantes. Alors comment les a-t-il justifiées, Julien ? On l'écoutera tout à l'heure sur son changement de philosophie, hein, aussi sur le fait qu'aujourd'hui, il ne pense peut-être plus amener 80% du groupe de la Coupe du Monde en France, en Australie. Comment il a justifié les absences de ces trois-là, Julien ?
Ça veut dire quoi être indiscutable en équipe de France ? C'est une bonne question, je n'ai pas la réponse. Voilà, pour lui, en fait, aujourd'hui, il n'y a plus de joueurs qui sont indiscutables. Il dit que la sélection, aujourd'hui, en tout cas, dans son nouveau principe, est une photo à l'instant T et que c'est les joueurs qui méritent le plus qu'ils sont appelés. Il dit qu'eux l'ont mérité énormément. Ils vont sûrement le mériter encore dans le futur. Mais pour l'instant, à l'instant T, il estime qu'il y a des joueurs qui sont plus performants qu'eux, qu'il a donc décidé de ne pas les appeler. Et là, peut-être où on peut saluer le travail de Fabien Galthié, en tout cas dans son choix, c'est que dans sa tête, probablement, il a son 15, évidemment, ses 23, voire ses 28, et que ni Aldrit, ni Ficou, ni Penaud ne rentraient dans ces 28 qui restent à Marcoussis. Et plutôt que faire des allers-retours à ces joueurs-là dans leur club, c'est-à-dire venir 3 jours à Marcoussis, redescendre à La Rochelle, Bordeaux ou au Racing, je pense qu'il les a ménagés de ce qui aurait peut-être été vécu pour eux comme, non pas une humiliation, mais ouais, une grosse déception de venir à Marcoussis porter les boucliers et jouer l'Irlande. Je pense que pour Ficou, qui a 98 sélections, autant que ce soit Broboiri qui le fasse et qui l'apprenne, plutôt que Gaël Ficou. Et je pense qu'il aura évité aussi cette chose-là. Mais voilà, il a longtemps mis en avant les joueurs qu'il a gardés avec lui sous l'effectif, le vécu commun. Aujourd'hui, il préfère la politique de l'homme en forme, excepté peut-être pour Mathieu Jalibert, Denis, vu qu'il nous parle de Thomas Ramos.
Alors, pas de remise en question de leur talent, dit-il, ni de leur avenir en bleu. Est-ce que cette place, ils la mériteront encore à l'avenir, Denis ?
Ils la mériteront. Moi, je suis passé par l'équipe de France, et c'est l'équipe de France.
Une fois que tu en es évincé, est-ce que c'est facile de revenir ?
Je comprends ce que dit Fabien Gandinier. Ça veut dire quoi être indiscutable ? Parce qu'en fait, en équipe de France, c'était sur un siège éjectable tout le temps. Voilà, j'ai pas vu de joueur, même Blanco à un moment donné, il a été remis en question, il a été évincé un jour. Blanco, on parle de Serge Blanco. Jean-Pierre Rive, à la fin de sa carrière, Brooks voulait sa tête. Donc, on parle de légende et tu vois, ça a été le cas pour eux aussi.
Antoine Dupont est dans cette catégorie. Antoine Dupont, est-ce que tu penses qu'il pourrait s'en passer
mais
un
oui,
jour
mais parce qu'il n'a pas de baisse de mais il n'est pas en méforme. Donc, tant qu'il est, il performe. Il est indiscutable parce qu'il performe. Mais demain, il serait moins fort, il serait contré, il serait emprunté, il avancerait moins. Tu le remettras en question. Tout le monde peut être remis en question. Là, je comprends la politique de Fabien. Mmh. Il l'assume, il le dit. Mais après, c'est pas sûr qu'il revienne. Hein. Moi, je suis pas sûr, certain. Ouais. Parce que le problème qui se pose...
Ça va dépendre du scénario
moins
de ce
pour,
match.
Moins et, pour Damien Penaud, il me semble. Parce que Damien Penaud, pour moi, c'est un phénomène. Mais tu le prends avec ses défauts et ses qualités. Après, le problème, c'est que aujourd'hui,
il y a d'autres phénomènes, Denis, aujourd'hui, à l'aile.
Oui, mais aujourd'hui, il voit plus les défauts de Damien que des qualités. Mmh. Donc, si tu veux, il est jugé par rapport à ça. Et puis, il y a la concurrence qui arrive. La concurrence, elle est terrible à l'aile. Elle est terrible au centre. Pour Ficou, c'est terrible. Quand tu vois le match que fait Calvin Gourg, tu te dis, c'est un extraterrestre. Donc, je veux dire, Fabien,
on peut pas lui reprocher.
Mais Fabien, il voit les matchs. Mais il voit les matchs. Fabien, deux porteurs, il est costaud. Non, mais Fana, il est explosif. Broboiri, il a fait un match incroyable. Mm-hmm. Tu te dis, même lui, il a été incroyable, Broboiri, à Toulouse.
Gailleton revient à peine, mais Gailleton, tu sais qu'il sera là.
Il revient maintenant. Tu as Barassi qui est pas là. Mm-hmm. Donc, c'est le problème, il est là. Après, pour parler d'Aldrit. Aldrit, on sent que Greg, le problème de Greg, c'est qu'il y a les années qui pèsent. Il a mal au genou, on le sait.
Et le nombre de matchs qui pèse aussi.
Oui, le nombre de matchs, donc si tu veux.
On l'a vu hier jouer avec un mal au coude, mal au bras.
C'est quelqu'un qui a été blessé, qui a beaucoup joué. Et puis après, il y a la concurrence à son poste, terrible. Tu regardes tous les troisièmes centres qui peuvent jouer, Nouchi, Djelonche, Olivon, Guillard, je ne sais pas moi. Et puis ils performent, tous ces joueurs performent. Aujourd'hui, le problème, la concurrence, elle est terrible. Ouais. Elle est terrible. Donc après, tu me dis, est-ce qu'ils vont revenir ? Si la concurrence...
Ça dépend niveau de la concurrence.
S'ils restent au même niveau,
internationaux,
ça va être compliqué. Même pendant le tournoi, on me dit pendant le tournoi, ils vont peut-être revenir. Mais s'il gagne contre l'Irlande et que ça s'enchaîne derrière, tu reviens pas.
Tu reviens pas.
Tu peux revenir sur une tournée d'été, à la limite.
Sur une blessure. Non, ah, mais... non, bah, tu penses que Aldrit et Penaud iront.
Si, Aldrit, c'est pas en finale, oui. Tu sais très bien le problème de finale.
Il va gagner la finale pour la Rochelle.
Greg, il peut revenir pour la tournée, pour le Japon. Parce qu'ils ne seront pas qualifiés. En plus, il va avoir du mal, la Rochelle, de se qualifier ou d'aller très loin. Donc, Greg, Damien, je crois qu'il reviendra. Damien, même si la concurrence est féroce, c'est un drôle de joueur.
Ouais.
Et on l'a vu, là, contre Stade Français, il s'est bien repris. Hein.
Ouais. Alors, justement, quand tu te prives de tes cadres comme ça, est-ce que tu risques
pas... Juste pour aller dans le sens de Denis, Christophe, n'oublions pas, Raphaël Ibanez, légende.
Il est resté à 98.
S'est arrêté à 98 sélections, hein, Raphaël.
Oui, c'est vrai.
Et voilà, et donc Ficou aujourd'hui, il a commencé très tôt, mais comme le dit Denis, aujourd'hui, il y a au centre pléthore de talents. Et en fait, ce choix-là, il n'est pas scandaleux. Si tu prends les joueurs appelés, tout est compréhensible dans les choix faits aujourd'hui par Fabien Galthié. À partir du moment où on va l'écouter, aujourd'hui, il privilégie la politique de l'homme en forme, des jeunes talents qui émergent. Aujourd'hui, soyons honnêtes,
ce qu'il avait dit, plus fort que Ficou
aujourd'hui.
Ouais. Oui, exactement. Tu vois, avant, il disait qu'il faisait cette politique de l'homme en forme, il n'a pas tout le temps suivi.
Il y avait quelques cadres intouchables.
Ouais, enfin, ça fait un moment qu'ils sont plus intouchables. Déjà l'année dernière, on se rappelle.
Sur le premier mandat, Penaud et Aldrit, justement, les trois qui ont été évincés,
mais pas tous les trois en même temps. Il y en avait qu'un à chaque fois. Hein. Donc là, c'est différent. Et le fait justement des hommes de confiance, parce que c'est quand même les grognards de Galthié, ces trois-là. Tu te prives de ces gars-là. Est-ce qu'ils vont pas avoir un peu le sentiment d'être trahis? Est-ce qu'ils auront envie de se sacrifier de toute manière pour leur sélectionneur à l'avenir?
T'es pas trahi en équipe de France. Et puis ces garçons, ils ont telle expérience qu'ils savent très bien qu'aujourd'hui ils sont en dessous. Ils savent très bien que maintenant il va faire.
Tu crois que Penaud, il sait qu'il est en dessous? Il croit qu'il est en dessous.
Sur les carences qu'il a, oui. Sur les carences, pas sur le.
Sur les ballons.
Sur ce qu'il a à faire pour regagner sa place, il sait très bien. Mais après. Que ce soit Greg ou que ce soit Gaël, ils savent très bien qu'aujourd'hui, il faudra redoubler d'efforts pour pouvoir aller atteindre aller concurrencer les. Et maintenant, cette nouvelle génération. Mmh. C'est évident.
Ouais. Là, il n'y a pas de scandale, Christophe, tu ne les perds pas, les joueurs. Celui que tu perdrais, honnêtement, c'est Mathieu Jalibert.
Oui, le seul.
Non, celui que tu perdrais.
Oui, mais
là,
enfin, on a cru qu'il l'avait perdu, justement, Jalibert.
Oui, mais parce qu'il avait mis Ntamack et Pierre Ramos. Mais là, par exemple, si au début du tournoi, tu dis à Mathieu Jalibert, non, ce sera Thomas Ramos, le demi d'ouverture. Jalibert, il se dit, il faut que je fasse quoi en club pour avoir ma chance en équipe de France. Aujourd'hui, Denis l'a dit, Gaël Dréan, Atis Sogbé, Harfeuille, Grand Didier sur les ailes. Dréan, il met un essai exceptionnel avec Toulon hier. Voilà, aux ailes, t'as ces joueurs-là. Qui sont aujourd'hui meilleurs que Penaud. Au centre, Denis en a parlé. Et en troisième ligne, tu as aujourd'hui des talents de partout avec des joueurs hyper polyvalents.
Mathieu de Bordeaux.
Et Mathieu qui arrive, effectivement. Donc tu as aujourd'hui plein de joueurs. Donc je pense que Denis l'a dit, ces joueurs, ils ont l'expérience de savoir qu'aujourd'hui, ils sont un peu en dessous et qu'il va falloir qu'ils redoublent d'efforts. C'est ce qu'a dit Antoine Dupont d'ailleurs. Hein. Le maillot bleu n'est pas acquis. Il faut toujours redoubler d'efforts pour être appelé en équipe de France. Et je pense que. Ils sont un peu derrière aujourd'hui et que s'ils veulent revenir, il va falloir qu'ils soient meilleurs en club.
Il y a aussi, je pense, on l'a vu pendant la tournée d'automne, il y avait quand même cette équipe de France, elle a montré quelques signes de faiblesse. Il faut redonner de l'énergie. Moi, je pense qu'il y avait manque d'énergie dans cette équipe de France, cette jeunesse qui arrive avec cette envie débordante, on le voit à tous les postes. Donc, je crois que Fabien, il a dû raisonner par rapport à ça aussi et par rapport à cette tournée d'automne qu'il a inquiété.
C'est un choix qui a été fait en concertation avec les membres de son staff, mûrement réfléchi, nous dit le sélectionneur.
Oui.
Alors, évidemment, en faisant ça, tu te prives d'expérience. Galthié le reconnaît, il s'en explique. Quand on enlève 50 sélections, c'est pas gratuit. C'est difficile de sortir de tel cadre. C'est encore plus difficile de rentrer un joueur qui a peu de sélections. Pourtant, il a osé. Il renonce pas à la difficulté. Est-ce que c'est un pari osé, selon vous, sur le côté de l'expérience? On va quand même affronter l'Irlande, qui est une équipe avec une sacrée expérience, même si elle est peut-être un peu moins forte qu'elle l'était par le passé.
Je pense que l'expérience joue moins qu'avant parce que tous les joueurs sont confrontés au.
Tu penses pas que c'est aussi la force de la
l'Afrique du Sud, avec la Coupe d'Europe, ils sont confrontés à jouer le Leinster. Non, mais surtout les joueurs qui vont affronter jeudi prochain. Donc, ces joueurs-là jouent les mêmes joueurs. Ils ont l'expérience déjà de les avoir affrontés, donc de ne pas les craindre.
Le Stade de France, 80 000 spectateurs, premier match du tournoi face à l'Irlande, qui en a remporté quand même un paquet.
Tu as raison de le dire, mais regarde Calvin Gourgue, qui rentre contre l'Australie, t'as l'impression qu'il est dans son jardin.
L'Australie, c'était pas le tournoi.
Quand même, 80 000 personnes, t'as l'Australie, tu rentres, il faut être bon. Il est bon. Moi, je pense que la nouvelle génération ne se pose pas les questions que nous, on se pose. D'accord. Et qu'elles sont beaucoup plus en confiance, mises en confiance et par rapport à l'événement. C'est vrai qu'il y a 30 ans, tu as joué un match du tournoi. D'abord, tu n'avais pas tout cet encadrement, tu n'avais pas toute cette réflexion. Et donc, tu étais un peu voué à toi-même. Hein. Aujourd'hui, ils sont très accompagnés. Moi, je pense
Mais Denis, il y a 30 ans, vous jouiez dans les provinces françaises, dans les petits clubs. Je pense que ça en dénigrait. Aujourd'hui, tu l'as dit, Deporter, champion d'Europe avec Moefana. Donc, ils jouent au niveau tout le temps. Et puis, toute cette génération-là, n'oublions pas, ils sont tous champions du monde avec l'équipe de France des moins de 20. Ouais. Donc, alors évidemment, c'est pas le même match dans le même stade. Christophe, tu as raison que le Stade de France, ça va leur peser. Mais je pense que Kylian Mbappé, quand il a été lancé en équipe de France, au bout d'un moment, on a des joueurs, c'est des phénomènes, c'est les meilleurs à leur poste. Et ben tu les fais jouer et tu peux pas dire ouais ils ont pas assez d'expérience, on va pas les lancer. Je pense que
et puis,
tu parlais des Sudaf, ils ont des jeunes qui arrivent, des pépites, il va les lancer Erasmus, il va pas se priver. Hein. Alors après il le fait peut-être.
Je crois que c'est Bernard Laporte qui l'a dit. On lui posait la question dans le Midi Olympique là, cette semaine. Il disait mais regardez tous les joueurs qui vont monter à Marcoussis, ils sont déjà venus à Marcoussis.
Ouais exactement.
Ils sont déjà entraînés avec ce contexte-là, donc ils sont prêts. Il a répondu à ce. Et je suis d'accord avec lui. C'est pour moi, ils sont
d'accord. Donc c'est un faux problème.
Et puis t'es accompagné. Tu vas être accompagné par un Marchand, par un Jelonge, par un Dupont, par un Ramos. C'est-à-dire que ton axe 2, 8, 9, 15, eh ben, ils ont tous quasiment 50 matchs en équipe de France. Ils sont là depuis 5 ans. Voilà, c'est aussi leur rôle d'accompagner les jeunes. Denis, il a été lancé en équipe de France. Il y avait des papas à côté de lui. Eh ben, là, les jeunes qui vont être lancés, ils ont des papas à côté avec qui ils jouent en club et sur qui ils vont compter. Et voilà, je pense qu'il faut leur donner leur chance. S'ils sont les meilleurs, il faut les faire jouer. Je pense que la vérité, elle est là.
D'accord. Fabien qui poursuit en expliquant « Je maintiens qu'il n'est pas impossible que 80% des joueurs qui ont vécu la fin du premier mandat soient en Australie. Est-ce que vous y croyez encore, vous ?» Non. Ou est-ce qu'il nous enfume sur ce point-là, Julien ?
Non, mais alors, je ne pense pas qu'il nous enfume.
Il y croit vraiment ?
Je pense que quand il est arrivé au début de son premier mandat, il a fait l'état des lieux de l'équipe de France, peu de sélection, peu de vécu commun, pas beaucoup de moyenne d'âge. Et quand il comparait ça avec l'Afrique du Sud, ils ont fait des statistiques de toutes les sélections et ils ont dit, voilà, il faut 30 ans, 50 sélections et l'équipe de France en est loin. Donc, dans son projet où il était engagé sur 4, 8 ans, il s'est dit, il faut que je maintienne en fait des garçons, même s'ils sont peut-être moins bons en club, mais il faut leur donner un vécu commun, il faut leur donner justement cette expérience-là. Et donc, je pense que dans sa tête, à l'issue de la Coupe du Monde, en tout cas en 2023, il s'est dit, 80% des joueurs qu'on a, on va les emmener en Australie parce qu'on aura le vécu commun d'avoir joué cette Coupe du Monde et on saura mieux l'appréhender. Sauf que depuis 2023, les résultats de l'équipe de France, ils sont quand même un peu moins bons. On peut quand même le rappeler. La tournée de novembre n'a pas été bonne. Le dernier tournoi, ils l'ont gagné. Mais c'est quand même moins performant. Et puis surtout, il y a des phénomènes qui arrivent. Au bout d'un moment, Denis en a parlé. Gourgue, c'est un phénomène. Mathieu, Nouchi, Deporter. Il y a des joueurs qui cassent tout aujourd'hui. Donc tu ne peux pas t'en priver parce que tu as dit que tu as amené 80% en Australie. Je pense que s'il y a 65% peut-être qui ont fait la Coupe du Monde, ça sera bien.
C'est peut-être,
on a des jeunes qui arrivent.
Voir 60.
C'est peut-être son constat initial qui n'était pas le bon.
Il a cru parce qu'il pensait que des joueurs comme Antonio pourraient aller à la Coupe du Monde. Moi, je ne le crois absolument pas.
Antonio, d'ailleurs, qui est forfait pour le premier match.
Oui, qui est forfait, qui ne sera pas là. Mais bon.
Les dernières heures, forfait également de Boudéan, qui sont remplacés par
Alexandre Roumat et Georges-Henri Colombe.
Georges-Henri Colombe, exactement. Galtier, qui, justement, reconnaît avoir évolué sur le sujet. Il s'en est expliqué tout à l'heure au micro de Wilfried. On l'écoute.
C'est vrai que pendant un certain temps, on va dire pendant le premier mandat et un peu plus, j'avais choisi volontairement une sorte de conservatisme. Construire une équipe pour créer de l'expérience individuelle et collective. Aujourd'hui, après 6 ans de vie commune, je pense qu'il est temps de trouver
une évolution dans notre mode de construction de la sélection entre conservatisme et une évolution vers la création, l'innovation et donner la chance à de jeunes joueurs qui ont un potentiel certain de porter le maillot.
Voilà les explications de Fabien Galtier qui répète un peu ce qu'il a expliqué à nos confrères de l'équipe. Donc évolution de sa mentalité, de sa réflexion autour justement des cadres de son équipe. Tu le disais, Julien, moi je pensais quand même qu'Erasmus s'appuyait quand même beaucoup plus sur ses cadres finalement que Galtier, même s'il en reste quelques-uns.
Ouais, il a régénéré son groupe. Hein.
Mais ça veut dire que l'équipe de France a une plus belle génération qui arrive que celle de l'Afrique du Sud.
Alors, les Sudaf, ils ont la génération qui viennent d'être champions du monde, lui. Donc, eux, on va les voir débarquer, je pense, cette jeune génération, ils vont débarquer. Mais l'équipe de France, elle est championne du monde des moins de 20 il y a 2 ans, avec Nouchi, Jégou, Oradou, Deporter, Coste, Reus. C'est que des joueurs qui sont aujourd'hui des titulaires indiscutables dans leur club, qui sont même, pour le coup, Deporter, capitaine à Bordeaux, Nouchi, capitaine à Montpellier. C'est-à-dire que tous ces jeunes joueurs, en plus, ils ont pris du galon dans leur club. Oradou est leader à la section paloise. C'est-à-dire que tous ces jeunes joueurs, Jégou est un leader à La Rochelle. Tous ces jeunes joueurs qui ont à peine 20 ans ou 22 ans sont des capitaines dans leur club, sont les meilleurs de leur club et sont les meilleurs à leur poste. Donc aujourd'hui, Fabien Galtier, il est obligé de constater que cette jeune génération-là, contrairement à l'époque où Denis en parlait tout à l'heure, ils avaient peut-être moins de chance, ils ont tapé à la porte, ils ont renversé la table et en club et ils veulent faire pareil en équipe de France. Et je pense qu'aujourd'hui, Fabien Galtier, il se dit... J'ai une génération bénie qui arrive et je vais les faire jouer.
On en a tellement fait sur la génération précédente, la génération des Dupont, on disait que c'était la génération bénie, celle qui allait permettre à l'équipe de France de devenir championne du monde pour la première fois. Mais effectivement, la génération qui arrive, elle est presque aussi talentueuse, Denis, sinon autant que celle des Dupont, des Penaud.
Moi, je pense qu'elle est meilleure.
Elle est plus forte.
Elle est encore plus forte.
Dans les lignes, tu regardes, c'est... Non, c'est son... Puis ils sont jeunes et très forts tout de suite. C'est-à-dire que là, il n'y a pas d'attente, quoi. Il n'y a aucune attente. Tu les mets, tu vois Gourgue, tu vois... C'est-à-dire que tu ne seras jamais déçu, quoi. C'est ça qui est incroyable.
Plus forte que la génération d'avant.
Ah ouais.
On oublie un peu vite, quand même, ce qu'elle nous a apporté.
Non, la génération d'avant, on ne l'oublie pas, Christophe. Ntamack, c'est Carbonel. C'est Ntamack, c'est Carbonel, c'est Arthur Vincent. C'est tous ces joueurs-là, mais qui ont mis plus de temps à arriver dans les clubs. Cette génération, elle fait tout plus vite. Sur les 15 champions du monde qui avaient battu l'Irlande, ils sont quasiment tous titulaires dans leur club aujourd'hui, Christophe, ce qui n'était pas le cas de la génération Ntamack, qui est évidemment une génération exceptionnelle, mais ils ne sont pas tous titulaires. Il y a eu d'ailleurs des joueurs qui sont perdus en chemin, pour le coup Demba Bamba par exemple, tu vois, qu'on a du mal à voir éclore au haut niveau. Il y a Possolo Tulagi qui avait débarqué dans cette génération-là. Sur les 15 joueurs qui étaient titulaires champions du monde, ils sont quasiment l'intégralité titulaires aujourd'hui dans des clubs top 14, et ils sont quasiment les meilleurs de leur club à leur poste. Oui, le petit Ferté, il est arrivé à Toulon. Mignoni dit que c'est le meilleur depuis le début de la saison. Nouchi, moi, pour le voir tous les week-ends, c'est le meilleur Montpellierain depuis 2-3 ans. Donc ces joueurs-là sont aujourd'hui, oui, je pense, plus forts que la génération Ntamack, qui était déjà très forte.
Ok, écoutez, on va voir ce que ça donne sur le terrain, cette histoire-là. Galtier qui revient également.
Et on ne les voit pas tous, c'est parce qu'il y a Castro Ferreira à Toulouse qui est énorme.
Et puis on ne va pas tous les voir en équipe de France en plus.
Non, il y a Gazzotti qu'on a vu quelques années à Bordeaux qui est aussi énorme. Et en plus, il y a des joueurs qui ne sont pas là, mais qui sont aussi très forts. Donc cette génération-là, elle est exceptionnelle.
Donc c'est plutôt... plutôt enthousiasmant à l'idée de voir cette équipe de France encore plus forte que celle qui était jusque-là sur place, en place. Et donc, on espère évidemment que ça va se concrétiser lors de la Coupe du Monde. Galtier qui revient également sur le jeu produit par son équipe. Là aussi, il semble jouer franc jeu, ce qui n'est pas toujours le cas lors des confs d'après-match, Julien. On n'est clairement pas satisfait de la tournée de novembre. Et de citer la première mi-temps du match face à l'Australie plutôt que celle de face au box, est-ce que vous êtes surpris par ce mea culpa? Oui, on n'est pas satisfait. Ça, je ne l'ai jamais entendu dire ça en conférence d'après-match, notamment en novembre dernier, Julien.
Heureusement qu'il n'est pas satisfait quand même. Je suis rassuré de l'entendre.
Il ne le disait pas. Il ne le disait jamais ça.
Non, le problème, c'est qu'après... Alors, après match, c'est toujours dur.
Oui, moi, t'as pas coup, encore revu le match, la vidéo.
Moi, tu vois, le match de l'Afrique du Sud, quand tu le revois, tu te dis, bah, il n'existe pas. Et ouais. En fait, à chaud, tu te dis que tu fais pas un mauvais match. Et en fait, quand tu le revois, donc à chaud, c'est dur d'analyser, même si évidemment, ils ont une expertise beaucoup plus poussée que nous et qu'ils voient, eux, des choses que nous, on voit pas. Mais voilà, ce que on reproche à Fabien, et d'ailleurs Denis l'avait dit après la Coupe du Monde 2023, c'est que Fabien nous avait laissé dans un silence sans explication. Et je pense qu'après la tournée de novembre, pareil, je pense que pour le coup, là, il pourrait faire un petit débrief. Tu vois, ce qui manque là, pareil, c'est ce que faisait Marc Lévremont. Alors, ça nous a amené souvent des conférences exceptionnelles. Mais le dimanche matin, lendemain de match, on avait des conférences de presse, retour pour l'analyser.
Qui en fait suivait la politique qui était en place
depuis
des années.
Oui, mais c'était bien, hein. C'était bien, je trouvais, d'avoir un lendemain, exactement. Mais même de Philippe, il faisait après, mais tous. Et je trouve que c'était bien, le lendemain, eux, d'avoir vu tout le monde à froid un peu, de refaire une analyse. Et c'est vrai que Fabien, aujourd'hui, eh ben, il fait pas de conf pour sa liste, il fait plus de conf après match. Et du coup, ben, là, c'est bien.
Quelques relents de bière et de whisky quand même dans ces conférences
parfois,
du dimanche matin.
Oui, on se rappelle une fois que Marc Lévremont sortait du pouce au crime en arrivant à la conférence de presse. Mais, non, mais je trouvais que ça faisait de la sincérité. Que là, effectivement, aujourd'hui, on trouve que c'est bien ce que dit Fabien. Il aurait pu nous le dire en novembre, deux jours après le match contre l'Australie.
Bon, en tout cas, il le dit.
Qu'il n'est pas satisfait.
En tout cas, il le dit. Il le dit, Denis, là aussi.
Non, mais il le dit, oui. Je trouve que c'est plutôt. Non, mais.
Après, il dit aussi que ce sont les plus imaginatifs. Voilà, on en reparlera.
Ah oui. Alors, justement, parlons un peu du jeu. Puisqu'il le dit, la priorité de ce stage avant tournoi, ça va être d'améliorer la position défensive des Bleus dans la zone 22-22. Pourquoi se fait-on autant prendre et autant siffler, et d'en appeler d'ailleurs au corps arbitral, siffler plus les positions de hors-jeu, messieurs les arbitres, dans le top 14 pour vous aussi, pour toi aussi, Denis, ça doit constituer une priorité dans le stage d'avant tournoi face à l'Irlande. Est-ce que c'est la priorité essentielle aujourd'hui?
C'est difficile à répondre.
Il y en a quelques-unes des priorités.
Oui, je pense que la priorité, pour moi, c'est la défense. C'est la défense, la priorité.
C'est quand même un paquet d'essais.
Non, mais c'est là où on était très fort et on a construit toutes nos grandes victoires sur la défense. Et on l'a vu à la tournée d'automne où ça a tangué, t'as beaucoup tangué. Et c'est ce qu'on ne faisait jamais avant. Donc il y a eu quand même des relâchements assez surprenants. Et là, voilà, je pense qu'ils vont remettre... Ils vont remettre la défense en place, mais bon, sur l'arbitrage...
Au bout d'un moment, les managers du top 14, ils ne vont pas dire à Galtier, stop, arrête là, au bout d'un moment, de nous faire porter toutes les responsabilités. En novembre, ils nous avaient quand même dit que les joueurs étaient mal préparés, qu'ils ne géraient pas la préparation physique, que du coup, ils récupéraient des joueurs un peu fatigués. Et là, tout d'un coup, à la nouvelle lubie de Fabien Galtier, on n'arbitre pas les hors-jeux en top 14 comme en Coupe d'Europe ou comme en...
C'est pas faux, ça.
Au niveau international. Alors, Pierre Thévenet a appelé Mathieu Reynal qui a dit, eh ben, je sais pas, on n'a jamais vu Fabien Galtier à toutes nos réunions depuis qu'on travaille ensemble. Pourtant, ils sont à Marcoussis, les deux. Les bureaux, ils doivent pas être bien loin l'un de l'autre. On se rappelle que quand même, à Loudanviel, en début de saison, William Servat, l'entraîneur de la mêlée, va au stage pour évoquer sa mêlée. Ben, Fabien Galtier, s'il estime que les arbitres, ils arbitrent mal les hors-jeux, eh ben, il va voir les arbitres et il donne son avis. Mais il ouvre pas ça, il tombe pas sur les managers en disant, ouais, les hors-jeux, on sait pas les travailler, on sait pas les siffler. Je suis désolé, ça c'est moi je serai manager au bout d'un moment.
Mais il attaque pas forcément gentil, que les managers là d'ailleurs.
Et il attaque
plus
qui
les arbitres. Oui, c'est plus les arbitres quand même là.
On a les meilleurs arbitres au monde depuis.
Oui, non, mais là il attaque pas les managers, il attaque plutôt l'arbitrage.
Il dit que c'est mal travaillé les systèmes défensifs, leur jeu, qu'on les travaille mal, il dit. Il y a aussi un peu du travail, de la remise en question des managers. Alors, aussi ils arbitrent. Mais Mathieu Reynal explique qu'effectivement, en France, ils arbitrent pas tout à fait leur jeu de la même manière, que c'est plus strict au niveau international. Mais Mathieu Reynal dit que ça se joue à quelques centimètres. Donc, c'est un petit ajustement. Je pense pas que ça va prendre 8 entraînements pour ajuster, de faire reculer ta défense d'un pas de
deux. Moi, je pense que Fabien, il réagit comme ça parce qu'il est vexé de derniers matchs.
Mais il est vexé, donc ils sont pas aux arbitres.
Oui, non, mais je le sens touché par rapport aux dernières prestations où c'est vrai qu'on a été assez indiscipliné. Et ce qui n'était pas le cas avant.
Bon, Galtier, alors qu'il fait aussi évidemment du Galtier, il peut pas s'en empêcher. Julien, en évoquant Dupont, tu en parlais tout à l'heure, quand on parle de lui, la Tour Eiffel se met à scintiller. c'est magnifique, ça. C'est un poète, notre Fabien National. Sans commentaire. Denis,
c'est élan. Non, mais bon, c'est du Fabien, là, dans le texte, donc y a pas c'est pas surprenant. Il a choisi le symbole.
Ouais, bon, après, il se fait aussi philosophe de temps en temps, il cite Socrate.
Non, mais tu vois, Denis, on en revient. On en revient à.
Je ne sais rien.
Ouais,
on en revient à Jalibert, Denis. Il est élogieux envers Antoine Dupont. ouais. qui je pense en a pas besoin. Antoine, il sait tout le bien que Fabien pense
de lui. On ne peut pas comparer les deux là. Je pense que tu peux pas.
Il sait tout le bien que on pense de lui. Tout le monde sait qu'Antoine Dupont est un joueur exceptionnel. Je dis pas qu'il fallait qu'il dise que Mathieu Jalibert c'était la Tour Eiffel, mais je pense qu'il aurait pu être un peu élogieux envers Mathieu. Alors peut-être qu'il est élogieux quand il est au téléphone, mais dans l'interview qu'on a entendue tout à l'heure et dans celle qu'il a donnée à l'équipe, je pense qu'il aurait pu faire un peu briller Mathieu sur son début de saison en disant oui, il avait quelques lacunes défensives, on voit qu'il travaille dur, on voit qu'il a compris, je sais pas, juste envoyer un message positif à Mathieu Jalibert. Plutôt que dire que la Tour Eiffel scintille pour Antoine Dupont, ce qui est peut-être le cas, mais on n'a pas besoin de le savoir.
Bon, heureusement, vous allez l'entendre. Le capitaine, lui, est dithyrambique à propos de son association avec Mathieu Jalibert. Là aussi, il en a parlé tout à l'heure à Wilfried. On l'écoute.
Cette année, il montre à tout le monde que c'est un grand joueur. Moi, ça s'est toujours très bien passé à chaque fois que j'ai joué avec lui. Évidemment, on n'a pas gagné tous les matchs qu'on a joués, mais j'ai toujours apprécié jouer avec lui. Comme j'ai dit, il a beaucoup d'appétence pour le jeu offensif comme moi. Donc il aime relancer les ballons, il aime prendre des risques, ce qui est mon cas aussi. Donc je pense qu'on a la même mentalité rugby.
La même mentalité.
Bon, merci Antoine.
C'est
vrai qu'on a souvent dit si Jalibert est pas là, c'est parce que il s'entend pas forcément avec Dupont. Ça, c'est des rumeurs. Hein. Personne n'en a jamais eu la moindre preuve.
Je connais un peu Antoine. C'est à l'image de ce qu'il est. Voilà, il est authentique, sincère. Et puis il sait pas faire ombrage à Romain Tamac. Tu vois, il le ménage aussi, mais il dit voilà, il dit la vérité tout simplement. Et puis c'est vrai que Mathieu, il a un jeu qui est offensif, il aime le rugby, il aime le jeu comme Antoine. Il se ressemble par rapport à cet état d'esprit-là.
Ça, c'est une déclaration qui doit faire plaisir à Mathieu Jalibert à entendre, parce que
évidemment,
Mathieu, il entend les rumeurs en disant ouais, Antoine, il préfère jouer avec Romain qu'avec moi. Et ben, il entend ça, il se dit ouais,
c'est un démenti.
Il est heureux de jouer avec moi. On a des qualités propres.
Je trouve cette sortie magnifique.
Moi aussi,
bravo.
Voilà, vous êtes vous aussi. Quand vous parlez d'Antoine, on a l'impression que la Tour Eiffel
s'allume. Ouais, bien sûr.
Évoquons maintenant la question de l'avenir de notre sélectionneur, là aussi, silence et bouche cousue, ce n'est pas le sujet de notre entretien, explique-t-il à notre ami Papat, mais il ne dit pas non plus qu'il arrêtera après la prochaine Coupe du Monde. Votre avis là-dessus? Est-ce que vous pensez qu'il a envie de poursuivre après 2027 et de faire une carrière à la Deschamps, c'est-à-dire des années et des années à tête de l'équipe?
À l'équipe de France? Non, ouais. Mais c'est fini après.
Ah, pour toi, c'est fini?
Fini.
D'accord.
C'est trop dur. C'est trop dur, mais c'est peut-être pas lui qui arrêtera, on le fera arrêter. Hein.
Ouais.
Puis c'est pas bon.
Mais tu penses qu'il n'a pas envie?
Non, mais
pourquoi il le dit pas?
Je pense que c'est pas bon. Mais non, mais il le dit pas parce que il est.
Marc Deschamps l'a pas dit avant la dernière
Deschamps
année.
Il l'a
hein.
pas dit, mais, ouais. mais puis je pense pas que lui, surtout s'il fait une bonne Coupe du Monde, qu'il a envie de continuer en plus. Mais bon, ce serait pas bon. Ça serait pas bon. Je pense pas. Je sais pas ce qu'en pense Julien, mais.
Mm-hmm. Julien.
Je sais pas. Moi, je vois qu'Erasmus, il continue avec l'Afrique du Sud. Fabien Galthié, si.
On est à combien de mandats, Erasmus?
Il y a un mandat où il est derrière Nina Bör, il est prolongé jusqu'à 2031 déjà.
Oui, mais il a gagné deux Coupes du Monde.
Non, mais je suis d'accord. Mais moi, je suis Fabien Galthié. Si j'ai une génération dorée qui arrive, telle qu'il arrive, si, comme il a l'air de vouloir le faire, mettre un peu d'eau dans son vin, changer un peu son management pour les joueurs, ce qu'il dit d'ailleurs en disant si j'ai pas été bien, il faut que je change. Si les joueurs acceptent Fabien Galthié, qu'il a une génération. Qui fait une Coupe du Monde, je sais pas, admettons, ils perdent en finale. Il se dit, on n'a pas encore atteint l'objectif, je suis prêt pour repartir pour 4 ans. Après, avec tous
c'est
les défauts qu'a...
Ans,
je
excellent.
Suis d'accord, mais Denis, avec toutes les critiques que je peux faire Fabien, je pense que ça reste quand même, malgré tout, le plus grand manager, le plus grand entraîneur qu'on ait, en termes d'idées, en termes d'innovation, même si, bon, il mitonne un peu quand il dit que c'est son staff qui travaille le plus au niveau international.
Oui.
Je pense qu'en termes d'idées, en termes...
Non, mais ça, il n'y a pas de problème. Tu as raison sur ça.
Non, mais c'est pour ça que Denis, s'il a envie de continuer, moi je suis Florian Grill, s'il a envie de continuer,
non, moi, j'ai un doute
tu te dis que tu as peut-être le meilleur entraîneur à son poste.
Oui, mais c'est pas moi. J'avais plus ma réflexion, c'était par rapport à l'énergie. Je pense qu'après, quand tu es sélectionneur, c'est une énergie, il faut l'avoir. C'est pas sûr que
oui,
quand
il y a
fait
des
8 ans
de plage de repos, Denis.
Non, mais 8 ans de sélectionneur, c'est
il y a que lui qui a plage de repos.
Non, mais en fait, il y a que lui qui peut répondre. Il y a que lui qui peut répondre. S'il est capable de repartir sur 4 ans, pourquoi pas? Moi, bien sûr, lui qui repart pour 4 ans, ça serait même logique.
Denis, je pense que c'est beaucoup plus fatigant pour Hugo Mola qui est en place à Toulouse depuis 2010.
Au quotidien, toutes les semaines.
Avec la gestion au quotidien d'un club sur 52 semaines, avec toute la pression inhérente autour du stade toulousain qui doit tout gagner et que quand ça ne gagne pas, on remet tout. Non, mais c'est pour ça que je pense qu'évidemment, le poste de l'équipe de France, alors il est surexposé, mais je pense qu'en termes de fatigue sur une saison, Denis, il a 6 semaines du tournoi à faire, plus la préparation avant, la préparation après. Je pense que c'est quand même beaucoup moins énergivore pour un Fabien Galthié que pour un Christophe Furios à Clermont, un Hugo Mola ou un Yannick Bru, tu vois. Je pense que la vie en club, elle est beaucoup plus difficile. Et que d'ailleurs, c'est ce que disait Didier Deschamps, que c'était quand même un confort d'être sélectionneur. Et je pense que Fabien Galthié, il a aussi cette possibilité de chercher des idées sur le jeu, des évolutions, de tourner dans les clubs. Je pense qu'il se régale dans ce poste-là. Et je pense qu'il est très bon. Alors après, avec toutes les limites que peut avoir Fabien Galthié. Mais je pense que voilà, il a quand même fait passer un cap à cette équipe de France. Et il faut arrêter l'émission parce que je vais être trop élogieux avec Fabien.
Non, mais c'est incroyable. C'est incroyable.
Non, mais je pense malgré tout que ça reste le meilleur qu'on ait à ce poste-là. Avec, voilà, il faut un peu le cadrer avec des hommes autour de lui. Mais voilà, je pense qu'en termes d'idées de rugby, il est très bon.
Je pense que Fabien Galthié a réussi à retourner Julien Landry.
Complètement.
Alors, ça, franchement,
j'en ai dans la tête, là, c'est fini.
J'aurais pas misé un copec là-dessus avant la conférence.
Fabien, il s'intille aussi. Il s'intille la Tour Eiffel.
Juste un dernier mot, je sais que tu dois partir, Denis. Est-ce que il a plus la pression là au début de ce tournoi 2026. On rappelle, c'est un tournoi en année paire, c'est-à-dire qu'on reçoit l'Irlande, on reçoit l'Angleterre, c'est l'année des grands chelems. En plus, les Britanniques ont disputé la tournée des Lions. Ils sont, semble-t-il, un peu plus fatigués que d'habitude, même si les Anglais, je les trouve pas très fatigués. Est-ce qu'il a l'obligation de l'emporter, faute de quoi il pourrait se retrouver un peu sous pression?
L'obligation, non, parce que le niveau.
Pas jamais d'obligation, mais bon,
le niveau du tournoi.
Il est obligé de se poser, Denis.
Mais avec la génération qu'il a, oui, il y a matière à faire un grand chelem, oui.
Oui, il y a matière, mais est-ce qu'il a...
Denis, tout autre résultat qu'une victoire dans ce tournoi serait une déception. Hein.
Il faut le gagner, oui, c'est vrai, mais...
Alors, après, grand chelem, tu peux pas, parce qu'aller gagner
en Écosse,
ça sera...
Denis,
non, mais je veux dire, il joue pas sa place, après...
Non, je dis pas que je joue sa place, mais Denis, ne pas gagner le tournoi cette année avec cette génération-là, avec le calendrier que t'as, non, mais ça serait une énorme déception.
Je pense qu'il a la pression, mais il y a une belle pression positive qu'on va gagner, on va rouler sur les Irlandais. Je le pense. Ça va bien se passer.
Bon, ok.
Ouais, je vois un beau tournoi. Moi.
La positive attitude.
Ouais, non, mais je vois les joueurs, je vois les qualités, je vois tout. Il n'y a pas bien qui change. Et qui... voilà, donc.
Bon, toi, tu ne changes pas, mais en tous les cas, je pense que.
Non, mais j'ai envie qu'on gagne.
Il t'a rassuré.
Oui, il m'a rassuré.
Ah, il t'a rassuré. Voilà.
Même Julien, toi, il est rassuré.
J'ai jamais dit, je ne pense pas que j'ai dit qu'il m'avait rassuré son discours. J'ai dit que s'il voulait repartir.
J'y vais, messieurs. Ciao.
Bon, merci, Denis. Bon, en tout cas, c'est vrai, Julien, moi, je trouve, si on fait le bilan de ce podcast, j'ai l'impression quand même que tu es séduit par le nouveau discours du sélectionneur.
Et je l'ai savonné pendant 50 minutes.
Non, pas trop, je n'ai pas trouvé. Pas trop. Je m'attendais un peu plus quand même.
Mais là, quand même, à la fin, je dis juste que voilà, je pense que ça reste quand même, aujourd'hui, en termes de manager, l'un des plus forts. Alors, peut-être pas le plus fort, mais l'un des plus forts.
C'est qui le plus fort?
En France, je pense que voilà, il est à la place idoine aujourd'hui. Ouais. Et après, ce qu'il voudra continuer, je sais pas. Mais en tout cas, moi, pour moi, il a la pression parce que il faut gagner ce tournoi après une tournée de novembre qui a pas été brillante, avec les choix qu'il fait en plus. Il se rajoute un petit peu de la pression, même si voilà, il lance des jeunes joueurs. Je pense que oui, il y a la pression très clairement du résultat. Je pense qu'aujourd'hui, tu pars dans ce tournoi en te disant, on va gagner le tournoi, et si ça se goupille bien, on fera le grand chelem.
Voilà, pression.
Strict minimum.
Strict minimum, le grand chelem. C'est bien parce que
strict minimum, la victoire. Strict minimum, la victoire. Et si ça goupille bien, le grand chelem.
Eh bien, nous verrons si l'équipe de France est capable de le faire. L'équipe de France qui a donc rendez-vous avec l'Irlande, ce sera dans 10 jours maintenant, le jeudi 5 février. On le rappelle, à 21h10, la compo de l'équipe de France sera communiquée dans combien ?
Mardi prochain.
Exactement. Merci Julien, merci Denis.
Merci.
Et merci à vous qui nous écoutez, évidemment. N'hésitez pas à vous abonner car on va avoir des podcasts passionnants avec l'arrivée de ce tournoi Destination. On se retrouve lundi prochain. Nous serons à quelques jours, à quelques heures seulement de ce premier match face à l'Irlande. Bonne semaine.